France Musique. Bonjour Olivier Latry.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes organiste, vous êtes né à Boulogne-sur-Mer en 1962. Vous êtes l'un des trois co-titulaires des grandes orgues de Notre-Dame de Paris, sur lesquelles vous avez enregistré l'album Back to the Future. J'adore ce titre. Si vous pouviez retourner en arrière, Olivier Latry, où iriez-vous?
Il y aurait trop d'endroits.
Trop d'endroits.
Il faudrait plusieurs vies encore.
Allez, choisissez-en un.
Ouais, mais Leipzig, quand même, ce serait pas mal en 1740.
Qu'est-ce qui se passait à cette époque?
Il y avait un certain Jean-Sébastien Bach qui était organiste à Saint-Thomas.
Je ne vois pas du tout de qui vous parlez.
Ah oui, moi non plus.
Et quelle était l'ambiance?
Je pense que l'ambiance ne devait pas être si fantastique comme ça. En tout cas pour lui. Lui, quand on pense qu'à ce niveau-là, il devait enseigner le latin à des gamins qui n'en avaient rien à faire, essayer de jouer des cantates avec des musiciens qui s'en foutaient de la même manière, ça ne devait pas forcément être drôle pour lui. Et malgré tout, il nous a laissé ce qu'il nous a laissé.
Ce qu'il nous a laissé, ce qui est à découvrir sur ce disque Back to the Future. Le disque est sorti il y a quelques jours. Vous l'avez enregistré de nuit pour profiter du calme de la cathédrale de Notre-Dame de Paris et de ses alentours. Il y a eu énormément de reportages qui ont été faits à l'occasion de la sortie de ce disque. Moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que le mélange orgue, cathédrale et nuit fascine tant le grand public?
Il y a toujours un côté magique. De toute façon, c'est vrai que la cathédrale est magique de jour comme de nuit. Mais de nuit, quand il n'y a personne et qu'on a effectivement la cathédrale pour soi, ça, c'est encore autre chose. C'est un autre monde. Et c'est vrai que la pénombre fait qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va surgir de tel endroit? Est-ce qu'il y a une gargouille qui va se réveiller? Est-ce qu'on va voir Esmeralda ici, Casimiro de l'autre côté? Enfin, on ne sait pas. C'est vrai que c'est totalement féerique, quoi.
Et effectivement, il y a un clip qui accompagne la sortie de ce disque. Vous jouez un petit peu de cette ambiance aussi. Le clip est assez génial. Vous vous êtes installé au poste de pilotage, donc dans la tribune à 16 mètres du sol. Il y a des prises de vue d'un drone qui donne le vertige. Il y a des jeux de lumière projetés sur les tuyaux de l'instrument. On visite même l'intérieur des tuyaux. Une ambiance impressionnante, même voire presque diabolique.
Oui, mais je pense que ça, c'était vraiment le génie des réalisateurs de GOM qui ont réalisé ce clip, qui vraiment ont réussi finalement à un peu briser les codes de ce qu'on voit pour l'orgue, de ce qu'on voit pour le classique en général. Et je crois qu'on a besoin de ça aussi maintenant, dans un milieu où la musique classique a quand même un peu de mal à survivre. Ça peut peut-être aussi aider quelque part à rester un petit peu en vue.
Quel est le plus méchant cliché qui colle à l'orgue, Olivier Latry?
Oh, qu'on nous dit que c'est ringard, que c'est pas intéressant, que c'est embêtant.
le tout début de cette toccata et fugue en ré mineur, BWV 565 de Jean-Sébastien Bach, interprété par notre invité ce matin, Olivier Latry, sur ce nouveau disque qui paraît sous le label La Dolce Volta, en partenariat avec France Musique, Back to the Future. Cette œuvre, c'est ringard, embêtant, c'est pas sexy, Olivier Latry.
Bon, celle-là, si, quand même. Ça, pour le coup, c'est pas...
C'est hyper sexy, non?
Bon, je dirais pas jusque-là, mais...
on s'imagine un petit peu dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est extrêmement impressionnant d'entendre sonner une œuvre comme ça.
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est d'autant plus impressionnant qu'on utilise les ressources de l'orgue. Parce que, en fait, le but de ce disque, c'était justement de faire entendre Bach un petit peu autrement, là aussi, quelque part, de casser les codes, et d'utiliser à fond ce qu'on pouvait faire avec l'orgue de Notre-Dame.
Alors, on va peut-être un petit peu expliquer le concept à nos auditeurs. Vous avez donc enregistré ce disque sur les grandes orgues Cava École de Notre-Dame de Paris, un instrument qui date de quelle période,
Il est à strates multiples.
Voilà, globalement, exactement, mais globalement.
Globalement, c'est l'instrument de Cava École du 19e siècle.
Voilà.
Qui a été aussi encore un peu arrangé depuis. Mais la structure est de Cava École, donc c'est vraiment un instrument symphonique. Évidemment, Bach...
Qui est bien loin, finalement, de la facture baroque que Jean-Sébastien Bach a connue à son époque.
Tout à fait. Et puis, en plus, on est dans un lieu catholique. Bach était protestant. Enfin, j'aime beaucoup les paradoxes nombreux de ce disque, en fait.
Qu'est-ce que cet instrument, donc plus moderne, on va dire, apporte à la musique de Bach, Olivier Latry?
En fait... souvent, quand on joue de la musique de Bach sur un instrument ancien, on est obligé de garder la même enregistration ou une enregistration, enfin une sonorité similaire, pratiquement d'un bout à l'autre. Alors que là, je me suis vraiment amusé à changer les sonorités, à faire entendre une voix par-ci, par-là, etc. En fait, j'utilisais beaucoup les couleurs à la manière d'un chef d'orchestre. D'ailleurs, je me suis un peu inspiré pour cette toccata particulièrement de la version de Stokowski. Que tout le monde connaît et qui est vraiment absolument incroyable, enfin qui révèle certaines choses de l'œuvre qu'on ne connaît pas. Et je pense qu'on a beaucoup allé chercher justement sur les différentes adaptations qu'on a pu connaître de Bach à droite et à gauche. Je pense par exemple au Prélude et Fugue que Liszt a transcrit pour piano, etc. Et moi je me souviens quand j'avais, je sais pas, une vingtaine d'années que j'ai découvert ces préludes au piano alors que je les avais joués à l'orgue. Je me dis, mais j'entends des choses que je n'avais pas encore entendues.
Et quoi. Vous m'avez fait la réflexion tout à l'heure en arrivant en studio à propos de ce prélude de Rachmaninov que vous jouez très souvent à l'orgue.
On l'écoutait
à 8 heures.
Oui, effectivement. Je me dis, mais pourquoi les pianistes jouent ça au piano?
Mais ils nous l'ont volé. Alors parlons aussi de cette cathédrale Notre-Dame de Paris aussi, car quand vous jouez une note, il peut y avoir jusqu'à 7 secondes de réverbération. J'imagine que ça a eu une influence sur les choix des œuvres que vous avez installé dans ce programme de disques.
Oui, on est obligé effectivement de faire attention au choix des œuvres parce que il y a plein d'œuvres qui ne pourraient pas fonctionner en fonction de la clarité dont on a besoin, si vous voulez.
Donc si on va trop vite, ça devient trop confus.
Oui, c'est ça. Et puis s'il y a trop de polyphonie ou des choses, ou alors il faut vraiment s'arranger pour que la polyphonie soit distincte, un petit peu dans ce que j'ai fait dans le Richard Carr de ce même disque, où certaines fois joue sur 3 ou 4 claviers à la fois pour entendre justement des voix avec une sonorité particulière.
En tout cas, vous nous faites redécouvrir autrement ce choral qu'on va écouter, Erbarm dich mein, au Herrgott, toujours de Jean-Sébastien Bach, bien sûr.
Thank you.
Un extrait de ce magnifique choral BWV 721 de Jean-Sébastien Bach. Olivier Latrie à l'orgue ici sur ce nouveau disque qui paraît en partenariat avec France Musique sous le label la Dolce Volta. C'était un rêve, Olivier Latrie, d'enregistrer Bach sur cet instrument?
Oui, ça fait 30 ans que j'en avais l'intention. Le plus drôle, c'est que quand j'étais nommé il y a 34 ans, je me dis mais cet orgue n'est pas fait pour jouer Bach. Et finalement, petit à petit, je me suis dit et si on jouait Bach autrement? Et finalement, en utilisant les ressources de l'orgue. Finalement, c'est un petit peu ce qu'on ferait si on jouait Bach au piano, si vous voulez, il y a différentes approches. On peut très bien imaginer de jouer Bach en imitant le son du clavecin, alors sans pédale, un peu sec, etc. Et personnellement, je trouve ça horrible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse sonner un instrument. Et justement, quand on entend Bach avec des, je sais pas, un petit peu comme le fait Cyprien Katsaris, par exemple, avec où il utilise vraiment l'ensemble du panel sonore du piano, je trouve que c'est absolument fabuleux de pouvoir entendre ça. C'est aussi pour moi une révélation. Donc c'est un petit peu ce que je voulais faire.
Là. Et puis il y a la cathédrale de Notre-Dame de Paris. On en parlait, hein, cette histoire de réverbération pour ce choral. Vous avez justement joué de ça?
Oui, on est obligé parce qu'en fait, si vous voulez, la cathédrale quelque part, c'est la pédale du piano. Et voilà, bah évidemment, sauf qu'on peut pas doser la pédale.
C'est ça que j'allais dire, on n'a pas vraiment beaucoup de marge pour jouer là-dessus. C'est plutôt une caisse de résonance, alors ?
C'est une caisse de résonance, et oui, c'est ça, ça fait sonner l'orgue. Et du coup, on utilise vraiment si vous voulez, le tempo dépend réellement de la cathédrale, quelque part. Et dans le choral, Herbert Dichmann, ça dépend aussi de la registration que j'utilisais. J'ai utilisé à la main gauche les voix célestes, ce qu'on appelle, qui sont des jeux qui vibrent légèrement. Et en fait, le tempo est vraiment donné par les vibrations de ce jeu. J'aurais pas pu jouer ça ni plus vite, ni plus lent.
C'était vraiment l'orgue qui m'a dicté. Un jeu à l'orgue?
Un jeu, c'est un des petits boutons qu'on a de part et d'autre de la console, enfin des claviers, qui nous permet justement de moduler les sonorités et qui sont nombreuses dans le cas d'un orgue comme Notre-Dame.
Voilà, et de créer de nombreux sons. Vous le disiez, hein, vous avez été nommé il y a un petit moment comme co-titulaire de cette orgue de Notre-Dame de Paris. Vous aviez 23 ans. Oui. Je crois que vous êtes le 54e organiste de l'histoire de la cathédrale, tout de même. Vous avez toujours le même plaisir. Aujourd'hui, Olivier Latrie, c'est un instrument qui peut encore vous surprendre?
Mais oui, étonnamment. Oui, non, mais l'orgue a des ressources inexploitées encore, même après 34 ans ou 35 ans. Et je dois dire qu'à chaque fois que je vais là-bas, d'abord, je suis étonné par la cathédrale, je suis étonné par l'orgue. Et effectivement, on redécouvre toujours des choses. En fait, de toute façon, je pense qu'on peut pas faire ce métier si on est blasé. Donc, il faut arriver avec des yeux d'enfant et dire, oh là là, mais c'est magnifique. Et voilà, bah, ça fait 34 ans que ça dure, en tout cas.
Et je pense que tous les organistes rêve d'un jour de pouvoir jouer sur cet instrument.
Mais il y en a beaucoup qui viennent d'ailleurs.
Exactement.
Parce qu'on accueille à la fois des auditions d'organistes invités tous les samedis soir. On a 6 concerts dans le cadre de la saison de musique sacrée. Et puis il y a évidemment beaucoup de classes d'orgue et de gens qui viennent pendant les offices simplement pour voir l'orgue de près.
Olivier Latrie, vous savez quoi? Demain, nous recevrons deux de vos anciens étudiants, Thomas Hospital et Carole Mosakowski, tous les deux très liés à la maison de la radio, on l'entendra. Un petit mot à leur dire, un petit message à faire passer, mais peut-être.
Bienvenue à Carole, puisqu'il va donc succéder.
Voilà, donc Thomas Hospital était en résidence à Radio France depuis 3 ans, et puis il cédera la main l'an prochain pour la nouvelle saison à Carole Mosakowski.
Oui, mais pour moi, ça fait plaisir, parce que, effectivement, avec Michel Bouvard, mon collègue au Conservatoire de Paris, ce sont un peu nos bébés. Donc, on est content que de cette association qui perdure au sein de France Musique, la maison de la radio.
Évidemment, on en parlera demain. Merci beaucoup, Olivier Latrie, d'être venu nous voir ce matin. Il y a des dates de concerts à retrouver, bien sûr, sur la page de Musique Matin sur francemusique.fr, en France, à l'étranger aussi. Et puis, je rappelle la sortie de ce disque en partenariat avec France Musique, Back to the Future, sous le label La Dolce Volta. Merci, Olivier Latrie.
Merci à vous.
Les dernières mesures de cette passaka et fugue en ut mineur, BWV 582 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Olivier Latry sur ce nouveau disque qui paraît donc sous le label La Dolce Vita, qui vous impressionne beaucoup, Christophe Chassol.
Oui. J'ai une question, c'est quoi BW déjà ?
BWV, c'est le...
Alors, je... Mais ça veut dire quoi, je veux dire ?
Alors, ce que ça veut dire très exactement,
Bach,
oui, exactement. Merci beaucoup pour la langue.
Ça veut dire c'est... en fait le catalogue.
Voilà, exactement. Et numéroté. Donc, on a Deutsch pour Schubert, on a Kirkpatrick Köchel pour Scarlatti, on a Kirkpatrick et ce sont nom parfois de musicologues aussi qui donnent leur nom à ces numérotations.
Pas dans le cas de Bach.
Pas dans le cas de Bach, bien évidemment. Mais ce sera l'objet d'une chronique très prochainement, Christophe. Je vous promets, on va passer à la vôtre d'ailleurs, puisqu'il est 8h50 minutes. Allez, on fait comme si de rien n'était. Bonjour Christophe Chassol.
Eh bien bonjour Saskia. Chère auditrice, chère auditeur. Chère auditrice, chère auditeur. Ah oui, ce matin, je vais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup et puis qui est le meilleur ami de Bartok. C'est Zoltán Kodály. Bon voilà, je suis tombé amoureux de cette musique, vraiment. J'ai découvert Kodály par Bartok. Et j'ai appris qu'il était son compagnon de route dans les campagnes hongroises au début du siècle pour aller recueillir toutes ces mélodies, les mélodies pastorales, on va dire, qu'ils ont transformées et puis même mises dans leur composition. Grâce au phonogramme. Et puis grâce à des rouleaux de cire aussi. Enfin voilà, ils enregistraient toutes ces mélodies. Kodály, lui, il est né en 82, il est mort en 67, et il était...
1882,
oui. Et son père était bossait dans les trains, donc il avait beaucoup voyagé en Hongrie, enfin, ce qui était la Hongrie à l'époque. Il a été un peu accusé de copier Bartok, mais Bartok l'a beaucoup défendu, en disant qu'il avait vraiment son langage propre. Et d'ailleurs, il est hyper important pour le chant choral, pour ça avec sa méthode aussi, sa méthode d'enseignement. Alors il y a des citations de Kodály qui sont on lui demande comment il faut enseigner la musique aux enfants, et lui il dit qu'il faut le faire d'une façon qui soit pas une torture et qui soit une joie pour la vie, et qui soit que la musique soit un matériau qui nous serve toute la vie. Et on lui dit mais quand faut-il commencer avec les enfants? Alors il dit il faut commencer 9 mois avant la naissance de l'enfant. Et puis en fait, il a changé sa réponse. Il dit, il faut commencer 9 mois avant la naissance de la mère de l'enfant.
Voilà, ce qui est très simple.
Voilà. Alors les enfants, ils ont des petites mélodies répétitives et courtes qui chantent vraiment. Voilà, un peu comme dans Les Noces, comme dans le langage primitif de Stravinsky, de Bartok. Voilà. C'est magnifique. Moi, j'adore ça. Et je suis allé à la Philharmonie samedi.
Il y a 10 jours.
J'étais mais subjugué par le programme Budapest, les chœurs. Et puis on a vu le Mandarin merveilleux. Et alors, je vais vous faire écouter le Gypsy. Alors j'ai fait une petite réduction de piano pour vous montrer à quel point c'est pop encore. Toute petite réduction de piano, on écoute. Bon voilà, c'est de la pop musique ça,
on est d'accord. J'ai chanté ça quand j'étais choriste, oui, à l'Opéra de la Monnaie, dans la maîtrise.
Tu regardes ces katsikai.
Exact. Duba.
On va écouter, en vrai. Pardon.
On l'entend, mais c'est hyper difficile à chanter. Moi, devais chanter tout le tessicosigan, tout le tessicosigan, tout le tessicosigan, garder le rythme et la bonne prononciation,
c'est
bien sûr.
C'est hyper dur. Et donc, voilà, moi, je suis amoureux de cette musique. Je la trouve super complexe, super en même temps chantable, genre hyper chantante, super et très, très, très sophistiquée. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. On va écouter le pont de ce morceau du Gypsy, là, tu vois, c'est gay. On écoute le pont.
Bum, bum, bum.
Tu vois que à chaque fois on est surpris, c'est un peu comme dans la musique de Bartok, on est surpris par il peut te faire bon anniversaire dans quatre tonalités, tu sais. Mmh. Tu sais jamais où tu vas retomber dans les cadences. Et c'est ce que j'aime bien, c'est que les enfants sont respectés, il y a des mesures impaires, c'est de la musique complexe mais hyper bien écrite qui fait qu'on peut la chanter. Et c'est tordu et en même temps c'est très 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 beau, moi je trouve. Par exemple, il y a la Bread Baking Song, la chanson du boulanger quoi. Ça c'est Bartok. Donc on va l'écouter quand même parce que c'est le même genre, mais pour vous montrer la cousinade. Voilà, c'est superbe. Voilà, bon, c'est des cousins, hein.
Oui, on reconnaît.
Alors, allez, il y a un dernier extrait qui s'appelle Dancing Song et on l'écoutera après la cadence jouée au piano.
On va un petit peu se dépêcher, Christophe.
Oui, on va se dépêcher.
Il est déjà 8h56.
Ouais. Ça va, on va écouter cette cadence quand même. Ça arrive. Voilà, et rapidement au piano pour vous montrer que ce qui se passe dans cette musique. Mi ré, mi do, mi do.
Mais cela dit, Olivier Latry, c'est une musique qui sonne extrêmement bien dans des cathédrales aussi, pour en avoir fait l'expérience. Oui. Ces voix qui fusent.
Oui, tout à fait.
Et ces rites extrêmes.
Et puis en plus, accompagner ça alors, c'est au côté jouissif
aussi. Ah, exactement.
Ça m'arrive, il y a pas très longtemps.
Ah, c'est vrai ? Zoltán Kodály ?
Oui.
Oh, ben voilà,
qu'est-ce que vous avez joué ?
Laos Organi.
Là ?
Laos Organi.
Ah, je connais même pas.
Ben, on va écouter.
Oh, j'écoute.
Mais c'est très bien, on va découvrir ça super. Ensemble. Merci beaucoup Christophe pour cette chronique qu'on écoute sur francemusique.fr. Et puis on se fait un plaisir de programmer un petit peu plus souvent. Je le fais quand même de temps en temps, mais des chœurs de Zoltán Kodály, parce que j'aime beaucoup ça.
Mais moi je cherche des musiques aussi neuves que ça.
Pardon ?
Pour chœur, je sais pas. Il y a Copland, il y a des trucs de Copland qui peuvent... C'est pas la même chose, mais...
On peut peut-être demander l'avis à Émilie Menerer et à Bruno Boulmier qui sont là. Bonjour à tous les deux.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
On vous a pas entendu parce qu'on a l'impression que vous disiez comment depuis tout à l'heure. Comment
qu'est-ce
que c'est ?
De quoi ?
Quelle pièce, Kodály ? Oui, non, mais moi je parle avec beaucoup de gens en même temps. Je fais des signes.
Ça nous fait rire, ça nous fait
rire. À mon réalisateur, j'écoute Christophe, je remercie Olivier Latry. Donc il y a un peu beaucoup d'informations. Et parfois, une information se perd.
Mais oui,
on parlait de Zoltán Kodály et de ses chœurs.
Mais oui, c'est ça. Alors nous, on est...
Alors écoutez bien cette information.
Voilà.
Nous allons nous commencer l'émission avec du Karl Leveux.
Tout à fait.
Voilà, c'est une information.
Comme une autre.
Voilà.
Voilà. Mais je vous remercie, c'est formidable.
C'est
on vous retrouve dans un instant. Allez, au revoir. Merci Olivier Latry, merci Christophe Chassol et merci à vous. Merci à toute l'équipe, Yacine Bouzard, Pauline Boisaubert, Antoine Baglin, Max Dozelm, Alexandre Billard, Antoine Giraud. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.